Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis, bonjour nos auditeurs et chères auditrices. Voilà, nouveau numéro de 13 Passion. Et comme tous les vendredis, de 18h à 19h. Alors le programme, nous aurons, je pense, l'actualité internationale et nationale du rugby à 13. Et nous allons inaugurer une nouvelle émission, une émission dans une émission, un nouveau programme. De temps en temps, peut-être une fois par mois, nous allons faire la carrière d'un joueur clé du rugby à 13. Vous le savez tout à l'heure, vous nous laissons vous découvrir, bien que ce soit paru dans la presse. Nous en parlerons, et après, évidemment, on parlera du championnat de France, quelques vicissitudes, enfin, bref, tout le programme habituel de 13 Passion. Bonjour Denis.
Bonjour Nicole, bonjour Roger, bonjour chers auditrices et auditeurs. Voilà, je croyais que Roger m'avait oublié, mais non, il ne m'a pas oublié. Il m'a obligé d'être là avec vous, non. C'est un grand plaisir que je suis là. Mais si je ne viens pas, attention. Hein.
Bon. Oui, même si des fois tu te crois à rugby league, non, mais c'est très passionnant.
De toute façon, je ne dis plus le titre, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper.
Oui, comme ça, tu te tromperas pas. Alors, un programme relativement simple, puisque nous allons, je pense, démarrer par les infos internationales, si tu en as quelques-unes.
Oui, alors j'en ai quelques-unes, Roger, mais déjà on pourrait, parce que pour démarrer par les changements de programme qu'il y a ce week-end, parce que je sais, bon, c'est pour, on va le dire en début de l'émission, si tu es d'accord, parce qu'il y a des auditeurs qui arrivent de bonne heure et qui s'en vont avant la fin, et puis on le répétera à la fin pour les auditeurs qui arrivent tard, exactement, mais qui restent jusqu'au bout.
D'accord, plus que la première partie de l'émission, ça s'appelle les actualités internationales et nationales du rugby à 13. Donc Denis, tu peux y aller, tu peux donner les informations, je ne peux pas appeler ça information.
Sur le championnat de France élite, le changement de programme ce week-end, alors qui va impacter d'ailleurs Radio Marseillette en partie. Alors, ben oui, il y a deux matchs qui, pour des raisons de Covid, vont être reportés, avec en particulier le match qui était le match phare de ce week-end, qui devait se dérouler dimanche après-midi au Moulin, et qui devait opposer le Feuceux Lézignan à Saint-Estève Catalan, puisque il y a trois cas de Covid du côté de Lézignan. Alors on va y revenir. D'abord, demain après-midi, notre au préalable, samedi après-midi, parmi les deux matchs qui devaient se dérouler à 16h30, qui n'étaient pas retransmis sur Radio Marseillette, il y en a un de reporté. Il s'agit du match qui devait opposer en Avignon, le SO Avignon, qui devait recevoir le Racing Club Saint-Gaudinois. Là aussi, trois cas de Covid du côté de Saint-Gaudens. Alors, Saint-Gaudens, ils sont derniers du classement. Ça va leur faire trois matchs à rattraper. Ça devient compliqué.
Pour on a l'impression que Saint-Gaudens, on a le Covid une fois tous les 15 jours.
Bon, je veux pas. Ben, bon. Roger, tu vas.
C'est une impression.
Voilà,
mais ça dit que c'était bon.
Mais dans tous les cas, disons que la fin de saison
qui se rétablit ce vite. Hein.
La fin de saison va être compliquée parce que il ne reste bon. Déjà, il y avait deux journées de rattrapage dont où la fédération a calé déjà tous les matchs actuellement qui étaient en retard à ce jour ont été calés, donc il y avait deux journées, la journée du week-end prochain, le 24-25 avril, et ensuite le week-end du 1er de mai, donc puisqu'il y avait des week-ends de coupe là, donc comme il n'y a pas la coupe l'Auvergne, donc il y avait des week-ends libérés, donc, et Saint-Gaudens est sur ces deux week-ends est pris, donc, puisqu'ils ont deux matchs à rattraper. Donc là, ensuite, eh bien, il reste un week-end, le 22-23 mai, le week-end avant les barrages du championnat, où devait se dérouler la finale de la Coupe. On peut supposer que ce week-end pour Saint-Gaudens, que ce troisième rattrapage pour Saint-Gaudens sera mis ce week-end-là, mais ça devient, il ne faudrait pas qu'il y en ait encore d'autres. Alors, du côté de Lézignan, bon, et de Saint-Estève Catalan, c'est plus simple, puisque on peut penser que le match, la semaine prochaine, Lézignan et Saint-Estève Catalan rattrapaient un match qu'ils avaient en retard, Donc, par contre, le week-end du 1er de mai, il devait être au repos. Les deux, ça tombe bien. Je pense que la fédération, je ne veux pas me mettre à la place de la fédération, mais je pense que la fédération mettra ce match importantissime entre Lignan et Catalan le 1er de mai. Voilà, donc, alors, nous, pour nous, eh bien, nous avions prévu dimanche après-midi sur Radio Marseillaise pour vous faire vivre ce match à partir de 15h30 en direct et en intégralité. Bon, ben, comme on avait prévu en même temps que Nicole, à partir de 15h, nous ferait vivre des points réguliers, comme elle sait le faire maintenant, sur la rencontre qui se déroulera à l'aiguille entre Limoux et Toulouse Olympique Élite. Eh bien, Roger, eh bien, on retrouve. Si du côté de l'aiguille, on a réparé les câbles, on les a changés, etc., eh bien, on retransmettra à partir de 15h ce match.
Oui, mais Denis, moi j'ai une autre proposition à faire. Hein. Puisque maintenant Nicole est dans le bain complet, nous on ira faire, on pourrait proposer faire la technique en studio, on ne sait pas comment, et Nicole pourrait aller commenter le match en direct. Qu'est-ce qu'elle a pensé, Nicole?
J'y pensais, figurez-vous.
Ah, bon, voilà.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle a dit.
Elle a dit qu'elle y pensait. Voilà.
D'accord.
Elle en a rêvé toute la semaine.
C'est
donc
ça.
Voilà, donc. Voilà, donc, dans tous les cas, voilà pour les changements de matchs retenus, dont ce fameux match entre Lignan et Saint-Estève catalan. Voilà, donc, bon, alors, ça va donner, laisser encore un peu de suspense, parce que moi, je vous avais fait tout un tas de calculs. On verra si à la fin de l'émission, on a le temps, je reviendrai ici, si le chef est d'accord, j'y reviendrai dessus, j'avais fait toute la semaine. Alors,
supposons, Denis, que Saint-Gaudens, de nouveau, et d'autres, ça arrive avec ce Covid, on ne sait jamais où on va, hein, qu'ils aient d'autres cas, qu'ils aient encore un match reporté, on va être obligé de décaler les finales.
Non, je pense, pour l'instant, non, je pense, ouais. Bon, je te vois venir, Roger, je te vois venir.
Ah, mais non.
Tu verrais bien une finale le 30 juillet, donc tu en rêves.
Allez, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui l'ai dit.
Moi, je te préviens, si Francis Camel nous écoute, hein, moi, je n'ai pas, prends pas la responsabilité.
C'est toi qui m'as dit d'emparer de ça, tout à l'heure.
Non, alors,
c'était une plaisanterie. Hein.
Oui, non, sérieusement, alors, bon, moi, je pense que si c'est juste que Saint-Gaudens, bon, je pense, compte tenu qu'ils n'ont plus rien à attendre dans ce championnat, je pense que la fédération donnera match gagné.
Sauf si le dernier match, et pour celui qui va jouer contre Saint-Gaudens, pourra amener une qualification ou pas, ou un truc comme ça.
Bon, alors, si ça il reste encore une opportunité, parce que je vous ai dit, le 22-23 mai, ouais, il y a un week-end, et pour l'instant, il y avait le week-end de la finale de la Coupe. Donc là, pour l'instant, est blanc. Donc là, normalement, ce match entre Avignon et Saint-Gaudens pourrait se jouer là. Et d'autres matchs qui pourraient, parce qu'ils peuvent en arriver à d'autres clubs aussi, attention. Hein,
la preuve, oui, bien sûr, absolument.
Donc, encore, il y a ce week-end disponible. Et encore, il pourrait y avoir, en décalant les barrages, ou en décalant les demi, il y a le week-end avant il y a un week-end de repos qui est le 12 et le 13 juin, le week-end avant la finale. Donc on pourrait très bien décaler barrage demi d'un dimanche chaque fois, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de repos pour la finale s'il y avait vraiment besoin. Mais enfin, ça, je pense, il y a des spécialistes des calendriers à la fédération, je leur laisse la responsabilité. Là, ce que je dis là, ce sont tout à fait...
Souhaitons surtout que ceux qui sont touchés par le Covid se rétablissent le plus rapidement possible. Voilà.
Exactement, Roger. Voilà. Après, bon, le sport, déjà, nous soyons contents que notre championnat élite...
Soyons contents qu'on ait un championnat français qui puisse arriver à terme.
Et qui puisse arriver à terme, qui ne soit pas interrompu comme la saison passée. Voilà, donc, Roger, on va passer dans nos infos internationales qui nous sont préparées et offertes par notre ami Thierry... Thierry qui devient célèbre sur les ondes, parce que tout le monde, de nombreuses personnes se demandent, mais qui est ce fameux Thierry? Ah, ça c'est...
Il a un surnom, La Grotte. Thierry, La Grotte.
Allez, donc on y va Et on démarre par des infos internationales. On va aller en Afrique. Vous savez que ça nous permet de voyager à peu de frais en ce moment avec le Covid. Eh bien, c'est impeccable. Alors, le Nigeria, qui est un pays où le rugby à 13 a fait des progrès majeurs juste avant les deux ou trois dernières années qui ont précédé l'année passée, l'année 2020. Et il y a aujourd'hui une structure de Ligue nationale qui est créée au Nigeria. Ils ont remporté le championnat, vous savez que le championnat d'Afrique du Moyen-Orient, qui est disputé par quelques nations africaines et du Liban, du Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Maintenant, il y a le Maroc qui est en Afrique, mais qui est en Afrique du Nord aussi, qui va intégrer également la prochaine édition de ce championnat en 2022, si tout va bien. Donc la dernière édition en 2019, c'est le Nigeria qui l'avait remporté. Donc aujourd'hui, ils sont rentrés avec cette victoire dans le classement mondial. Et ils envisagent des plans d'expansion de la Nigeria Rugby League Association. Pour l'instant, en 2020, évidemment, le championnat d'Afrique et du Moyen-Orient a été interrompu, a été suspendu à cause du Covid. Hein. Mais ils ont quand même eu une activité l'année dernière. Un des exemples, c'est le premier tournoi de la capitale, Lagos, un tournoi de rugby à 9. Hein. On sait que dans beaucoup de pays qui démarrent comme ça, on démarre par le 9, hein, c'est important. Et il y avait 5 équipes de la Conférence Sud. Alors là aussi, le Nigeria, c'est un pays très grand, hein, donc le pays géographiquement est coupé en deux conférences, un peu façon aux États-Unis. Et donc, il y a la Conférence Sud et la Conférence Nord. Non, et comme Lagos est situé au sud, parce qu'après les déplacements sont très compliqués. Donc il y a eu quand même 5 équipes de la région sud du Nigeria et qui ont participé à ce tournoi. Et en plus, il y a eu des matchs d'exhibition pour les moins de 18 ans et pour les féminines. Et tout ça, ça a eu lieu au Naval Barrack, au stade qui s'appelle le Naval Barrack de Mushin. Voilà, donc dans la capitale de Lagos. Alors là, maintenant, le gouvernement fédéral, puisque le Nigeria est, et puis ensuite le gouvernement des États qui composent le Nigeria, assouplissent progressivement les restrictions. Et commence, dont le sport commence à pouvoir être pratiqué au Nigeria. Et donc, la fédération nigériane a confirmé son calendrier de saison pour la saison 2021 qui ne va pas tarder à démarrer. Alors le directeur de la stratégie et de la planification de cette fédération a déclaré « Nous sommes très heureux de voir notre stratégie soigneusement planifiée se dérouler avec succès. Nos plans pour cette saison prévoient une participation accrue non seulement à la compétition masculine, dont deux nouveaux clubs vont rentrer, mais aussi dans les catégories féminines et le 19. Un des points essentiels de leur stratégie est de développer le rugby league, le rugby à 13, en direction de la jeunesse nigérienne, en particulier en descendant en dessous des U19 et en ciblant des 12 dans la catégorie 12-16 ans. Ça a laissé tomber évidemment la catégorie supérieure, les U19, mais déjà, ils élargissent le champ en s'adressant aux gamins. Alors, le président de cette fédération nigérienne a ajouté que, ils en sont évidemment quand même, ils sont conscients qu'ils en sont à leur balbutiement, mais ils sont très, très, très heureux et très, très excités d'être les pionniers de ce jeu dans ce pays, et un peu aussi en Afrique, hein, parce qu'ils sont en avance sur les autres pays africains, où le rugby à 13 se développe. Et il commence à voir, il a dit, c'est extrêmement encourageant de voir le nombre de joueurs potentiels avaient du talent qui grandit dans ce pays. Voilà, donc alors ils veulent garantir un nombre de matchs un peu plus important, un peu comme ça avait été en introduisant en rajoutant à la compétition des matchs amicaux. Voilà, donc un peu comme je veux dire que c'est un peu pour ceux qui ont vu mon livre, un peu comme ça s'est fait à la naissance du rugby à 13 en France en 1934-35, où il y avait énormément les équipes disputées en même temps qu'elles disputaient le championnat, bien disputées à côté de ça, énormément de matchs amicaux, donc de façon à ce qu'il y ait des matchs tous les dimanches, même quitte à se rencontrer plusieurs fois dans la saison. Donc ils prennent un peu cette façon pour ne pas laisser les clubs ou ne pas faire un championnat trop rabougri sur deux mois, ou de laisser les clubs un mois sans jouer, enfin, etc. Voilà, donc ils préparent en même temps la compétition au niveau international, le championnat d'Afrique et du Moyen-Orient pour 2022. Voilà, donc, et ils ont l'intention par rapport à l'expansion en direction des jeunes, ils ont l'intention d'un tournoi qui va se dérouler dans le sud-ouest du pays, de cet immense pays, encore une fois, ils prévoient de faire participer à ce tournoi qui s'est déjà déroulé 15 écoles supplémentaires de cette région du sud-ouest du Nigeria. Et c'est donc avec l'objectif de faire en sorte que chaque école soit rattachée à un club. Voilà, donc, voilà. Alors, le championnat, championnat par conférence, nord et sud, il y aurait chaque club, il y aurait deux matchs, évidemment, par club. Enfin, chaque équipe se rencontrerait à deux reprises. Et puis ensuite, les deux premiers de chaque conférence, dont le premier et le second, seraient qualifiés pour les demi-finales du championnat national. Voilà donc pour le Nigeria. En Afrique, nous allons revenir en Europe, dans un tout petit pays. Alors là, de l'ancienne Yougoslavie, le Monténégro, qui est un petit pays qui a obtenu, faisait partie de la Serbie et qui a obtenu son indépendance après la guerre de Yougoslavie. Et là, on s'aperçoit quand même que même si les relations avec la Serbie, avec qui il y a eu une guerre, sont tendues sur le plan géopolitique, il n'empêche qu'au niveau du rugby à 13, la Serbie aide ce petit pays à implanter le rugby à 13, puisque le tout premier match de championnat de rugby à 13 vient d'être disputé au Monténégro. Puisqu'il y a une équipe du Monténégro, qui le RLSC South Region, a été intégrée dans le championnat serbe. Et ils ont accueilli le club de la capitale, un des clubs de la capitale serbe, le Radniki de Belgrade, et ça s'est déroulé dans la ville de Bar, au Monténégro, sur la côte adriatique. Il faut savoir que les Serbes ont parcouru plus de 500 km pour venir jouer cette rencontre dans cette ville du Monténégro. Les Serbes se sont imposés 42-18. Le RLC South Region, c'était leur premier match au Monténégro, mais c'était leur sixième match de compétition, puisqu'ils avaient participé lorsqu'elles se sont déroulées à deux reprises aux compétitions de ce qu'ils appellent la Super League des Balkans, donc une compétition qui regroupe un peu les Turcs, enfin toute cette région-là. Mais là, bon, cette fois-ci, donc, le RLC Sous-Région a rejoint la compétition nationale serbe cette saison. Donc, ils vont disputer cinq autres matchs à domicile contre dans ce championnat. dans cette compétition serbe, et ensuite ils iront disputer le championnat des Balkans, là, ce qu'ils appellent la Super Ligue des Balkans 2021, puisque ça va se dérouler pendant l'été. Voilà, et ensuite ils vont créer également une association de rugby à 13 du Monténégro pour avoir une structure nationale. Voilà, donc alors évidemment, ils ont remercié avec force les joueurs de Belgrade, hein, qui malgré la pandémie et le long voyage, se sont déplacés pour jouer un match, pour jouer ce premier match au Monténégro. Voilà, donc voilà, bon, il faut voir que ce sont des. Évidemment que ça a un aspect un peu émotionnel, évidemment, puisque par rapport à l'histoire tant mieux de ces pays, et puis continue à l'être, hein, bien à tous les événements qui se sont passés dans les années 90 dans ce pays, dans cette région. Bon, ben, on peut espérer que le rugby à 13 apporte un peu de paix dans ce secteur. Allez, maintenant, on va parler d'un arbitre fidjien. Alors, ça nous fait plaisir de parler des Fidji, puisque on sait qu'à Carcassonne, il y a Jojo Brobrovagi, le Fidjien, qui fait une remarquable saison. Et bien là, on va parler d'une personnalité un peu particulière du Fidji, de ces îles de Fidji. C'est Monsieur Misaele Vakabranu, qui est un missionnaire de la Ligue de rugby à 13, mais avec un missionnaire avec un sifflet. Il n'a pas un chapelet, il a un sifflet. Parce que, alors d'origine fidjienne, bon, Thierry nous permet de connaître son histoire de cette personne. D'origine fidjienne, il est venu en Angleterre en 2000 pour rejoindre l'armée britannique, et il a été initié au rugby à 13. Donc il dit, je l'ai essayé lors d'une séance d'éducation physique, et je suis tombé amoureux de ce jeu. Et ensuite j'ai regardé évidemment les matchs de la NRL à la télévision. Quand on vous dit que regarder la NRL à la télé, c'est le meilleur moyen de découvrir le rugby à 13. Ensuite, en 2008, il a quitté l'armée en Angleterre, et il est parti aux Pays-Bas, puisqu'il a intégré les Nations Unies, et il est allé aux Pays-Bas à La Haye, et là il a retrouvé également le rugby à 13, puisqu'en Hollande, en Pays-Bas, il y a des matchs de rugby à 13, il y a quelques équipes, et donc il allait à presque tous les matchs et même au stage d'entraînement en Hollande. Alors son surnom c'est Missa. Il s'est mis à l'arbitrage et il s'est mis avec l'idée de comme il travaillait pour les Nations Unies, qu'il était appelé d'aller de pays en pays, il s'est mis dans l'idée de comme un missionnaire, de passe-partout y passer, d'essayer d'implanter ou de contribuer à aider la diffusion du rugby à 13. Et à travers l'arbitrage, dont il a commencé à arbitrer à différents niveaux, il a donc visité nombreux pays. Il a passé un an en Serbie, puisque la Serbie dont je parlais il y a quelques minutes, où il travaillait pour les Nations Unies, et il y a arbitré de nombreux matchs, y compris dans leur compétition, dans leur championnat national. Ensuite, il est allé arbitrer en Belgique, en Allemagne, en Suède, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, au Pays de Galles, en Angleterre. Il n'est pas venu en France, malheureusement, mais on voit qu'à travers son parcours, on dessine un peu la carte de l'Europe du rugby à 13. Et maintenant, il a jeté, puisqu'il se trouve où ? Eh bien, en Autriche. Et il profite d'être en Autriche pour essayer de relancer le rugby à 13 en Autriche. En 2006, il y avait une équipe nationale autrichienne qui a joué un match des trois nations de développement à l'époque d'Europe centrale. Ils avaient contre l'Allemagne, ils avaient perdu contre l'Allemagne, et puis ils avaient battu l'Estonie. Bon, après cette compétition, bon, comme il n'y avait pas de relais, les relais n'ont pas été pris par des dirigeants, etc., bon, l'intérêt a diminué. Et maintenant, lui, comme il est là, Missa, il est déterminé à relancer une compétition dans ce pays, en Autriche. Mais voilà.
Denis, oui. Qui a parlé qu'il avait arbitré en Belgique. Donc il y a des équipes à 13 en Belgique.
Mais bien sûr, oui, oui. En Belgique, le rugby à 13, voilà, c'est comme en Hollande. Hein. Alors, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais il me semble non, que...
Moi, je demande à Thierry, qui nous écoute religieusement, qu'il nous fasse le point sur la Belgique. Ça m'intéresse au plus haut point.
Parce qu'il me semble que, si je ne me trompe pas, c'était un ancien joueur français, du côté de Bordeaux, ça, je ne sais pas s'il n'était pas Saramagna, il s'appelait, qui était même, à un moment donné, le directeur national en Belgique, puisqu'il était marié avec une Belge, il me semble, hein, mais je dis ça sous toute réserve, hein, parce que je me trompe d'accord. Sur le nom, mais enfin, voilà. Mais bon, si Thierry nous entend, bon, je pense qu'il essayera de faire, de voir s'il peut trouver quelques infos. Alors, bien sûr, c'est au Val-d'Ucina, hein, mais enfin, voilà.
Oui, et embryonnaire, voilà. Certainement.
Voilà. Et du coup, alors, pour en revenir à Missa, lui, en Autriche, alors du coup, en plus d'arbitre, il suit des cours d'entraîneur de niveau 1, et donc, il est allé au Pays de Galles pour... évidemment effectué virtuellement. Ah, hein,
c'est
puisque...
plus de...
Oui. Oui, et c'est donc... c'est de ce que j'ai comme la semaine dernière. Nicole, je suis toujours en antenne.
Voilà.
Toujours en antenne.
Ah, c'est Roger qui est parti, donc...
Non,
voilà,
c'est
donc...
Non,
c'est Roger, c'est toi qui... Bon, tu nous entends plus. Donc, il y a un problème.
Par moment, c'est haché.
Voilà, donc alors il prévoit de faire venir deux grandes équipes de Serbie, jouer en Autriche, pour disputer un match entre un match de démonstration entre les deux équipes de la capitale serbe, le Partizan de Belgrade, et qui viendrait rencontrer une autre équipe peut-être de la capitale serbe ou une. Enfin, ou s'il y arrive à jouer une sélection autrichienne, parce qu'en Autriche, il y a une grande communauté serbe qui vit, en particulier, du côté de la capitale autrichienne. Voilà donc pour l'Autriche, et puis on va revenir en Afrique pour terminer. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines que les matchs, je crois qu'il y a 15 jours, que les matchs de NRL étaient diffusés en Afrique, totalement en Afrique, donc là mais nous avons les premières retombées, puisque alors c'est un accord qui a été conclu entre la NRL et la The Walt Disney Company Africa, et qui sont dont ces matchs sont diffusés sur les chaînes SPN de Walt Disney, donc sur deux chaînes, les matchs de la compétition 2021 est diffusé sur deux chaînes. Et donc elle a un impact très significatif à travers le continent, puisqu'il y a de plus en plus de réactions dans la presse par rapport à ces matchs. Ça a un impact au niveau, comme tout à l'heure on a parlé. Donc ça, c'est vrai que plus on voit de ce match, ce rugby magnifique, que le rugby à 13, mais en plus jouer à ce niveau exceptionnel qu'est la NRL, évidemment, plus ça donne envie à des jeunes d'Afrique, et donc par rapport au Nigeria, le Ghana, le Cameroun, l'Afrique du Sud, etc. Donc sont évidemment très intéressés par ces diffusions de ces matchs, mais au-delà, même dans des pays où il n'y a pas le rugby à 13, il n'y a pas de fédération ou de ligue, de petites... bien, ça, il est diffusé partout dans tout le continent africain, et ils sont en train de réfléchir pour que justement ces chaînes de la compagnie Walt Disney retransmettent le prochain championnat continental d'Afrique et du Moyen-Orient qui se déroulera en 2022. Ils ont commencé au niveau africain à avoir des discussions avec cette compagnie pour que les matchs soient disputés. Serait quelque chose de magnifique pour l'Afrique que ce championnat, même si c'est un championnat où il y aura 6-7 pays, hein, entre, entre l'Afrique et le Moyen-Orient, et bien qu'il soit diffusé dans toute sur tout le continent africain. Voilà Roger, et merci à Thierry pour ces informations. Voilà, donc sur International.
Voilà, un grand merci. Je me retourne du côté de Nicole pour une petite pause pour nos partenaires et nous trouverons après l'invité dans cette nouvelle rubrique sur le rugby à 13, sur les personnalités, les personnages du rugby à 13.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par
Bardo Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne. Pour la gestion, la location ou la vente de vos biens, Betty, Margali et Didier de l'agence Bardo Immobilier vous accueillent du lundi au samedi au cœur de la Bastide, 44 rue Jean Bringer à Carcassonne. Pour les joindre, 04 68 25 37 63. Bardo Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne.
L'épicerie fine chez Julien à Carcassonne vous attend le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h non-stop.
Très large gamme de vins du Languedoc.
Un grand choix de blanquettes.
Un espace fromage en partenariat avec la fromagerie toulousaine du meilleur ouvrier de France.
Et pour vos plateaux entre amis, pensez à la charcuterie et au jambon ibérique ainsi que noir de Bigorre et noir gascon.
Pour réaliser toutes vos idées cadeaux, Corinne et Julien vous réservent un accueil chaleureux.
Chez Julien, 100 chemin de Mâquin à Carcassonne.
04 68 26 34 32.
Radio Go. Allez, deuxième partie de 13 Passion. Une nouvelle rubrique qu'on pourrait intituler Une vie pour le rugby à 13. Alors nous allons avoir un peu triste. Qui a été élevé dans le biberon, il y a fini moitié Sven de Cavardès et moitié lait de vache présiste, et ça a donné notre ami Michel Rouanet.
Attendez, bonjour, je l'ai perdu dans les tuyaux.
Il s'est perdu dans les tuyaux.
Oh. quelle mauvaise habitude là vous prenez.
Non, Nicole est allez, dans les tuyaux là. Bon, mais depuis qu'elle est dans les tuyaux, bon. Allez, bon, donc Michel Rouanet.
C'est pas un lieu de promenade, les tuyaux.
Eh oui. Mais où sont passés les tuyaux? Enchanté.
Et la grande échelle. Hein.
Donc Michel Rouanet, qui a longtemps, qui a démarré tout gamin, au rugby à 13, je pense.
Mais il est encore un gamin, Michel Rouanet. Hein.
Oui, c'est encore un gamin. Et il a démarré, je pense, à la célèbre maison des jeunes de Carcassonne, après la bifurquée.
Je l'ai récupéré, ça y est.
Ça y est.
Voilà. Il dit que Michel Rouanet, il nous a entendu, il avait été élevé au biberon. Dans le biberon, il y avait du vin de Cavardès et il y avait du lait de vache triste. Bonjour Michel Rouanet.
Oui, bonjour Roger, bonjour Denis. Est-ce que vous pouvez parler à peine un peu plus fort? La ligne est un peu fritée.
Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Et Avelage aussi, bon...
Oui, c'est possible, c'est possible.
Qui c'est que t'entends le mieux, Denis ou Roger?
Non, c'est à peu près pareil, tous les deux.
Ah bon,
c'est à peu près pareil. Ouais. Voilà, alors on entame cette nouvelle rubrique, Une vie pour le rugby à 13. Alors Michel Rouanet, qui ne connaît pas dans le milieu rugby à 13, Michel Rouanet, non seulement il a démarré tout gamin, si je me trompe, il me reprendra, et à la célèbre maison des jeunes, l'usine à joueurs. Après, je pense qu'il est allé jouer à la SSC, Limoux, et aussi quand même le Cavardès, Villerien, et après, bon, maintenant, il est au 13. Alors, Michel Rouanet, comment est venue cette idée de jouer rugby à 13? Qui c'est que vous amenez rugby à 13?
L'idée, c'est pas une idée. C'est à force, je pense, à force d'aller voir les matchs à Domecq avec mon père et des copains à mon père, puisque tous les dimanches nous partions avec la voiture bondée, et je pense que le déclic a été là, quoi, voilà. Mais j'ai commencé quand même un petit peu plus tard, puisque j'ai attendu de rentrer au collège, donc à Carcassonne, pour intégrer la maison des jeunes de Loulou Delon.
Oui, c'était, oui.
Voilà, oui, oui, là, j'ai passé quelques années à Benjamin Minime, évidemment. Et puis j'ai fait une petite escapade. Je suis en cadet, je suis allé sur Ponontier. J'ai passé une année en cadet à Ponontier 13, qui avait déjà une équipe cadet. Bon, ça me faisait plus près d'Aragon, c'est vrai aussi, puisque je me déplaçais à mobilette. Voilà, c'était l'époque des mobilettes, c'était pas les scooters.
Oui.
Voilà. Et ensuite,
la Peugeot.
Voilà, c'était la bleue, comme on appelait à l'époque.
Voilà, bleue, ouais.
Oui, la bleue, oui. Voilà. Que des bons souvenirs, voilà. Et ensuite, je suis revenu, parce qu'à la maison des jeunes, il y avait déjà une équipe junior B. Voilà, j'ai intégré cette équipe-là pendant 2 ans. Et puis les juniors A de la SEC, un suivant. Voilà.
Alors, dans cette jeunesse, dans cette partie de ta jeunesse où tu as découvert le rugby à 13, est-ce que tu as déjà remarqué, est-ce que tu as une petite sélection, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là?
Non, certainement pas de sélection, puisque peut-être que l'erreur que j'ai commise, ça a été de rejoindre l'équipe cadet de Penalty à ce moment-là, voilà, parce qu'à Carcassonne, c'était la machine à fournir les joueurs de l'équipe de France dans notre catégorie. Et voilà, je pense que j'aurais peut-être pas été sélectionné, mais ça a été peut-être une erreur. Voilà.
Bon. Denis?
Oui, donc, ensuite, après les juniors de Carcassonne, tu es arrivé. T'as joué en première à la SEC ou tu es parti à Limoux directement?
Non, junior de Carcassonne. Mais junior, écoutez, c'est l'année où je me suis régalé le plus, puisqu'on fait le doublé coupe championnat à la SEC avec les Trenck, les Scamilla, les Paillès, les Réna, Butignol, ouais. Sokolov, Paul Jean, voilà.
une équipe
de sacré nom, et on s'est éclaté, voilà. Et puis non, j'ai fait un an en équipe réserve, puisqu'il y avait une équipe réserve à la SEC, voilà, à cette époque-là, un an, et voyant que je n'étais pas utilisé ou essayé en équipe Fagnon, je suis parti, ça devait être l'année... voyons, en 80-81, j'ai fait un début de saison avec le club de Saint-Jacques, le club voisin de Saint-Jacques.
Hein. Ah.
Voilà. Mais qui commençait à avoir des problèmes et puis qui n'a pas fini la saison. Et donc au mois de janvier 81, j'ai rejoint Limoux, puisque Nanache m'avait rencontré, avait souhaité que j'y aille. Et bon, voilà, le grand Nanache. Et je n'ai pas refusé et je regrette surtout pas.
Voilà. C'est combien de temps à Limoux?
Limoux, ça a fait, disons, très peu de temps, hein, puisque ça a été pratiquement trois saisons, 2 saisons et demie j'ai fait, voilà, puisqu'après, ça a été la période où, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou Denis s'en souviendra peut-être, où c'était Brett Scott et Paul Maher, les premiers Australiens qui arrivaient.
Oui, je m'en rappelle. Ouais.
Voilà. Voilà, de sacrés phénomènes, voilà, avec l'entraîneur Verghez, et puis le coup d'éclat du président Serrier de l'époque, là, qui avait fait venir Guy Spanghero.
Voilà.
J'ai d'ailleurs un peu sous les yeux. Oui, ça avait fait du bruit, et voilà, mais là aussi on avait une sacrée équipe avec les Moya, les Caravaca, les Bueno,
Jean-Pierre Blois.
Les Gignès, Jean-Pierre Blois, voilà. Voilà.
Michel, ton poste, toi, c'était au talon. C'était un talon.
Oui, à part un junior où j'évoluais soit au talonnage, soit en troisième ligne, après j'ai constamment évolué au talon, oui.
C'était la glorieuse époque où les mêlées, elles s'incrustaient, hein.
J'allais en venir, ouais, c'était compliqué tous les dimanches, et je suis bien content de voir les matchs maintenant, voilà, c'est vrai. Maintenant les mêlées sont supprimées, non, mais c'est vrai que c'était rude, et puis il y avait pas mal d'arrêts de jeu parce que voilà, c'était brutal, hein. Il faut le dire, il faut le reconnaître, voilà.
Il n'y avait pas de casque, là.
Ouais, parmi les joueurs que tu as côtoyés, en particulier à Limoux, quels sont, ou peut-être aux juniors de Carcassonne, puisque tu as côtoyé des grands joueurs, alors parmi tes équipiers, si tu, Bon, tu vas pas, pour pas te faire d'ennemis, mais
oui,
bon,
oui,
quels sont les ceux qui t'ont le plus marqué? Et puis parmi alors tes adversaires en face, parmi ceux contre qui t'as joué, quels sont aussi ceux une paire qui t'ont le plus marqué?
Ah mais écoutez, surtout sur Limoulin, les équipiers qui m'ont le plus marqué, mais évidemment il y avait ceux qui arrivaient de Carcassonne, que je connaissais déjà, donc les Mouillards, les Caravaca, ils avaient connu le plus haut niveau et ils nous amenaient leur expérience. Voilà, c'était des guerriers, des combattants, et puis voilà, et ils amenaient le respect, on les respectait, et c'est comme ça. Puis voilà, et j'ai eu le bonheur là de connaître les Limoussel, les frères Bruno, Gigi Vassal, voilà, et puis un tout jeune, puisqu'il était encore junior, c'est Jean-Paul Marquette, mon ami de toujours, depuis on s'est connu, on s'est pratiquement plus quitté, voilà, et j'adresse un petit clin d'œil, voilà.
Voilà. Et Paul Jean, t'as joué avec lui aussi?
Et Paul Jean, oui, j'ai joué avec lui, et c'était en junior, et puis quand je suis allé à Limoux, il m'a rejoint avec Jean-Marc Vernier, voilà, et Alain Gignès, voilà, on était les inséparables, comme on dit, voilà.
Mais lui, il jouait à l'aile, plus loin de...
Paul Jean jouait à l'aile, oui, un peu plus à l'aile, ou quelquefois à l'ouverture aussi, oui, un sacré joueur, un sacré tempérament aussi, c'est vrai.
Que je connais bien, pour Paul.
Voilà. Ouais. Et après, dans les adversaires, eh bien, à cette époque-là, c'est vrai que les matchs étaient rudes, l'équipe qui dominait le championnat, c'était évidemment le 13 catalan, de l'époque des Amora, des Bernot, des Laforgue, Pélissier. Voilà, ouais. Là, c'était des joueurs qu'on craignait. Il y avait le pilier aussi, le pilier de Pierre, Henri Daniel.
Daniel, oui.
Oui, mais peut-être celui que je respectais le plus, je pense, ça a été Jean-Marie Bosque, voilà, le second de ligne de Saint-Estève, voilà. Un sacré client, mais alors parfait, puis un gentleman.
Exactement, il est vraiment, c'était d'une régularité.
Ah, oui.
Voilà. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein.
C'est vrai qu'il y a des personnages comme ça qui vous marquent, et
vous marquent,
et dès que chaque fois qu'on se revoit, c'est toujours avec grand plaisir. Hein. Pourtant, moi, j'ai jamais percé au plus haut niveau. Lui, il a eu une carrière qu'on lui connaît, mais il se met toujours à la portée des gens, et toujours très affable. Hein, voilà.
Et puis c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fabriqué le grand Thomas Bosque.
C'est le portrait de son père, Thomas, c'est clair.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
c'est dommage qu'il en ait fait que.
Ah ouais, il en a fait d'autres, mais bon, malheureusement, il n'y a eu que Thomas qui a éclaté au plus haut niveau.
Oui, il a connu une grande carrière aussi, Thomas, mais c'est vrai.
Ah ouais.
Et il est toujours au Dragon Catalan, il s'en occupe, bravo. Ce sont des exemples à suivre, ces gens-là. Oui.
Il est entraîneur adjoint.
Et oui.
Et puis bon, lui aussi, moi, c'est vraiment comme son père, hein. C'est les mêmes en photo, en termes de caractère, de gentillesse. Et tout.
Je le connais moins, évidemment, mais c'est vrai que enfin, ça se voit. Et puis même quand il jouait, quoi, il a arrêté maintenant, mais bon, Thomas, c'est vrai.
Alors Michel René, combien de temps vous êtes resté à Limoux, et après Limoux, vous êtes allé où?
Ah, mais écoutez, à Limoux, je vous dis, j'ai fait même pas trois saisons. Et
de
puis j'ai commencé à travailler sur l'exploitation familiale. Alors j'ai décidé d'arrêter de jouer. Mais bon, ça
fait longtemps,
j'ai arrêté un an. Une saison, et puis on s'est retrouvés au village, à Aragon. Quelques jeunes, on s'est dit, allez, quelques jeunes qui jouaient à la maison des jeunes déjà. Mon beau-frère Richard Payez, je ne vais pas tous les citer parce que peut-être vous ne les connaîtrez pas. Et on a décidé de monter une équipe, le RC Aragon 13, voilà. C'était en 84-85 dans cette année-là.
Et le RC Aragon 13 avec son fameux stade où il y avait un tâche de cailloux que d'herbe.
Oui, tout à fait, il y est toujours d'ailleurs. Il manquait les poteaux. Et ces poteaux, on les a aimablement prêtés à Villeneuve-Minervois quand ils ont commencé leur première saison. Alain Gignès, qui est un grand ami aussi, m'avait appelé, me demandait s'il n'y avait pas quelques poteaux de reste. Et il est venu les chercher à Rio.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce terrain?
Ben non, là maintenant il n'y a plus rien, c'est un terrain vague. Maintenant, peut-être il sera destiné à étendre le lotissement des capitelles qui jouxte le village d'Aragon.
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de vestiaire. Hein.
Ah non, les vestiaires, c'était. Les vestiaires, c'était pour l'équipe visiteuse, parce qu'ils étaient. Ils étaient très petits, ils étaient au milieu du village. Donc ils devaient monter ensuite au terrain. Et nous, pour l'équipe locale, on prenait 2-3 joueurs chacun chez soi. Et voilà, on s'est dépatouillé comme ça, on se douchait chez l'habitant. Voilà, mais c'était le rugby d'avant, le rugby village. Et voilà, de grands moments, parce que je me rappelle du tout premier match. Alors c'est le tout premier match avec une équipe de jeunes que du village. Certains n'avaient pas joué. On était 5 ou 6 à avoir tapé un peu de ballon. Et le premier dépassement, c'est à Axat, voilà,
oula,
cette époque-là. On y a pris un 60 et quelques à 0. On est revenu, on a fait la fête. Je crois qu'on n'avait jamais fait autant de la fête, avec les femmes, les enfants, voilà. C'était le premier match, et puis on n'a pas pu continuer, rien qu'avec les jeunes du cru. Hein. Il a fallu que d'autres joueurs nous rejoignent pour essayer de tirer un peu notre épingle du jeu, parce que à cette époque-là il y avait quand même, je pense, entre 12 et 15 équipes de l'Aude, hein. Il y avait le championnat de l'Aude d'ailleurs. Roger Bouchou doit s'en souvenir, s'il était le président.
Oui, je m'en souviens très bien. À l'époque il y avait un championnat de national 2,
oui,
et après le championnat fédéral,
et la fédérale, hein, oui c'est vrai.
Et après ça, bon, là, le rugby à 13 est tombé à Aragon. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon,
le rugby à 13 n'est jamais tombé à Aragon, parce qu'entre-temps...
L'équipe d'Aragon, je parle.
Oui, l'équipe d'Aragon. On a tenu 5-6 ans comme ça. Et puis, on a fait une petite entente, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Palaja, le club de Palaja.
Il y a longtemps de ça.
Oui, Aragon-Palaja, ça s'est appelé pendant 2 ans, voilà. Mais Aragon a toujours eu la fibre trésiste. Hein. Et ensuite, voyant que ça ne m'a... Enfin, on ne pouvait plus s'en sortir, on s'est rapproché de Ville-Gaillen. On est devenu la réserve de Ville-Gaillen, puis Penautier, et on a monté le Cavardès. Voilà. Voilà. Le Cavardès qui a fait les beaux jours, les beaux jours du canton de... Du canton de voilà de d'Aragon et Ville-Gaillen, le triangle Ville-Gaillen, Penautier, Aragon pendant plus d'une décennie. Voilà, je m'en suis occupé en tant que président et joueur.
Voilà, combien de temps vous avez été président là-bas?
Une dizaine d'années, je suis resté. J'ai pris la succession j'ai succédé plutôt à André Tiquet, là, qui s'occupait de Ville-Gaillen. Et quand on a créé le Cavardès, tout naturellement, je suis allé vers la présidence. Mais c'est pas pour parler de présidence, c'est parce qu'il fallait donner notre influx, et je me suis senti capable de le faire, voilà. Et c'est vrai que...
Moi, j'ai des souvenirs impérissables, avec certaines finales du Cavardès.
Vous pouvez en témoigner.
Je peux en témoigner. Mais moi, j'étais en tant que dirigeant, et Michel René, il était là en tant que joueur.
Il fallait faire un peu tout. Mais je crois que de cette période-là, un bon nombre de joueurs qui étaient là à ce moment-là s'en rappellent. Il y avait Patrick Limogy qui est resté notre entraîneur pratiquement tout le temps. Oui. Un sacré tempérament, un sacré joueur aussi, qui nous a amené à cette finale de 98. Oui, c'est bien ça, 98, perdu malheureusement, mais bon, voilà. Et alors que nous avions remporté cette année-là pratiquement tous les trophées qui se présentaient, et la dernière marche, alors que ça avait été bien engagé sur cette finale, voilà, nous la perdons.
Eh oui, alors la perte, c'est un coup de l'arnaque d'un certain M. Puech.
Oui, bon, en
fait, je... Et là, j'étais juste derrière lui, je peux en témoigner. Marc Messi sur son aile droite, il y a un jeune de quoi que c'était comme équipe déjà, une équipe du côté de Villeneuve-sur-Lot, mettez l'arbitre, il y a un avant, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas vu tourner le dos au match, j'ai discuté. Et là, il était sur le terrain et ça fait que cet essai, ça fait la différence. Mais il faut dire qu'en deuxième mi-temps, on n'avait pas touché d'air quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut le reconnaître. Voilà. C'est comme ça fait plaisir, ça fait partie des mauvais souvenirs.
Et une mémorable soirée.
Mais grande soirée, puis un stade de réellement bondé, je veux dire, tout le monde, bon, il n'est pas immense, c'est pas Wembley, mais que ça fait chaud au cœur, voilà, de voir tout ce stade acquis à notre cause, en fait, hein, parce que c'était contre Clairac Sainte-Livrade, et il n'y en avait pas tellement de spectateurs qui étaient venus de l'autre côté du Lot-et-Garonne.
Oui, c'est vrai, il y a eu du monde. Mais après, c'est devenu le Cabardès. C'est devenu Villers-Aragon.
Après, c'est devenu le Varl, voilà, on dira. Hein, le Varl d'aujourd'hui.
Villers-Aragon.
Aragon, voilà, qui a été. Avec Pelletier, on s'est un peu. Bon, c'est pas brouillé, mais je veux dire, on n'a plus eu aucun rapport. Et donc on s'est retourné tout naturellement. Sur Villegayen et Aragon, qui a créé le Varl. Mais c'est-à-dire que cette création du Varl, ça date de 2010 maintenant.
Oui, c'est assez récent.
Oui, c'est assez récent. C'est parti d'un noyau de joueurs, essentiellement de Villegayen. Il y avait 7-8 joueurs, plus une paire d'Aragon, qui jouaient au Han là-bas, sur Villegayen, et qui ont souhaité rejoindre le club. Et voilà, on est parti là, en fédéral. Hein. On a commencé en fédéral, c'était 2011-2012. Voilà, et on devient champion de France, contre le soleil, 2011-2012. En 2000, l'année après, on ramasse la coupe Paul Desjean. L'année après, de nouveau la coupe Paul Desjean, deux fois de fil. En 14 ou 2015, oui c'est ça, on perd une finale contre champion de France, contre Ferrals. Ouais, c'est un national, ça. Et puis, c'est la montée en élite 2.
Et là, une année magique où on fracasse tout.
Eh bien, voilà. Puisque deux ans après, on y est vite. Hein. 2017-2018, champion et Coupe de France, voilà. Champion de France, élite 2, Coupe de France,
Jean-Lierre,
voilà. Et l'année dernière, puisque ça fait deux ans maintenant, finaliste oui. Malheureux contre Bao avec tout ce qui s'est passé, donc je n'ai pas trop envie de parler, quoi. Voilà.
Oui, non, on passe à la vitesse.
Voilà.
Mais là, maintenant, vous êtes quand même... Vous êtes toujours resté dans le système, puisque vous êtes coprésident de Villegayen Aragon.
Ben oui, coprésident, j'ai rencontré mon ami Ludovic Gambier, ça fait peut-être 30 ans maintenant, ou peut-être pas 30, mais bon, voilà, Ludo avec qui j'ai une estime, puisque son père a joué à Aragon, arrivé récemment à Aragon, s'est intégré naturellement au club, on a eu de grandes attaches, il l'a perdu assez jeune, et Ludo c'est un peu le fiston, quoi, voilà. Et il s'occupe du club depuis maintenant pas mal d'années, je ne dirais pas, je suis incapable de le dire. Et j'avais décidé de le rejoindre aussi. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'un coup de main, mais bon, évidemment que je connaissais la réponse. Et voilà, j'ai souhaité le rejoindre. Il y avait encore Didier Tiquet, voilà, qui s'en occupait. Et puis nous ont rejoint Roger Aguera et le docteur Guillem.
Voilà. Et après, vous avez récupéré un certain RB, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, c'est ça.
Ah, RB, ça a été compliqué, oui. Mais c'est-à-dire qu'il était un peu courant au départ, alors bon...
Il était un peu quoi?
Un peu gourmand au départ, mais on a souvent pas joué.
Oui, le transfert.
Oui, oui. Un RB, cet RB, il a connu le Cabardès, il a connu d'abord le comité de l'ordre, le Cabardès, maintenant le Varl, mais il nous a toujours suivis, et je tiens à le remercier, ainsi qu'avec Denis, parce que je me rappelle des tout débuts, c'était pas votre radio encore, c'était pas Radio Marseillette.
Hein. Non.
Voilà.
Non. Et, c'était une autre radio.
C'était une autre radio,
oui.
Voilà.
Oui.
Et alors, ça remonte à quelques décennies. Écoutez, on a passé un très bon moment ensemble. J'espère que ça va continuer, mais là, c'est très compliqué avec ce Covid-là. Pour se projeter dans l'avenir, je ne sais pas qui peut dire quoi.
Hein. Alors, Michel Rouanet.
Oui.
Roger.
S'il n'y avait plus de rugby à 13, qu'est-ce que vous feriez?
Qu'est-ce que je ferais? Ah. Mais écoutez, ça va faire un an que je suis à la retraite là. Hein. Je vous dis franchement, oui. j'avais une exploitation, je l'ai toujours. Hein. C'est mon fils a eu la riche idée de reprendre l'exploitation. Alors je pense que l'heure de la retraite, elle est que sur le papier. Là, tous les jours, je suis dans mes vignes, je me régale, c'est vrai. Mais bon, voilà. Je vais aider mon fils.
La chasse aussi.
Il y a un sacré chien, un chasseur, qui chasse les côtelettes d'agneau.
Ah oui, c'est vrai. Ça, je sais pas, vous êtes bien informé, monsieur.
Oui, mais c'est vrai,
c'est une histoire, oui. Une histoire comme il s'en passe, c'est vrai. Mais la chasse, un peu de chasse aussi, mais peut-être un peu moins maintenant, mais surtout, voilà, je souhaite aider mon fils Floral, là, qui a repris cette exploitation, qui a arrêté de jouer lui aussi, et voilà.
Alors Michel René, pour terminer.
Oui, Roger.
Oui.
Oui, c'est simplement, là, je voulais simplement dire, bon, moi je me souviens, j'ai vu quelques matchs de Michel Rouanet quand il à l'époque à Limoux 13 et Limoxin, ou à Limoux 13. Et je peux dire que pour ceux qui ne l'ont pas connu sur un terrain, eh bien, et qui ont vu jouer son fils Florent, eh bien, c'était un peu la même caractéristique. C'est-à-dire, c'est le joueur qui ne reculait devant rien. Pourtant, pas un gabarit extraordinaire, mais une vaillance et un guerrier, quoi. Et à l'époque, bon, c'est vrai que le rugby a changé. Pour Florence, c'était certainement plus facile, même si c'était dur, par rapport à ton époque. Mais moi, je veux dire que... Alors, en dehors du terrain, la même gentillesse, mais sur la pelouse, des garçons qui ne reculaient devant rien, même devant les plus costauds du 13 catalan, etc. Michel était comme ça, et Florent, eh bien, pour ceux qui n'ont pas connu Michel sur le terrain, qui ont vu Florent, eh bien, je parle, moi, je fais le parallèle.
Ah, écoutez, c'est des mots gentils, c'est vrai que je reconnais que, bon, voilà, de toute manière, si on voulait jouer à cette époque-là, il fallait être comme ça, il fallait avoir ce tempérament, hein, c'est clair.
Ah, oui.
Voilà, et puis, bon, j'ai été heureux, moi, c'est vrai, de suivre après la carrière de Florent, hein. Moi, je ne peux pas me comparer à lui, parce qu'il a pratiquement tout connu, alors, oui. Voilà, avec des bonheurs et des malheurs, mais ça, c'est comme tout joueur, hein, voilà. J'ai été un peu déçu quand il m'a dit qu'il arrêtait, mais voilà, c'est comme ça, il a été fatigué, il a été mâché, et voilà, mais il a pris du grand plaisir.
Alors moi, j'aime mémoire deux matchs, la grande finale de Villers-Aragon contre l'Escure, hein, en terre catalane, si je ne me trompe,
oui.
Et la victoire, quelle belle victoire. Hein. Et puis moi,
Barcarès.
J'ai une grande en mémoire, un grand match. Il s'est déroulé au stade du Tautel entre le Cabarnès, quoi c'était, moi c'était le Cabarnès, oui, contre Escale Castelnau. Michel voit de quoi je veux parler.
Oui, mais voilà, on en a parlé tout à l'heure.
C'était le rugby de papa.
Voilà, oui, ça remonte, mais ça, il faut pas trop en parler. C'était le rugby d'avant, voilà, c'était comme ça.
Oui, le papa.
Eh oui, on a fait, je crois qu'on a joué 2 minutes 30, hein. Voilà.
C'est toi qui avais joué.
Moi et le talonneur d'en face, qui s'appelait, qui était Valero, qui était là pour rien, il savait pas
ce qui s'était passé. Je te demandais ce qui arrivait.
Voilà, mais après, c'est... Oui. D'ailleurs, on perd ce match, hein, avec Gaillen, logiquement, parce que Castelnau avait une fort belle équipe, hein, c'est vrai.
Alors, Michel, pour terminer,
oui,
on espère retrouver Aragon, en championnat 2, la saison prochaine.
Et tout le monde l'espère, enfin, le staff et tout, mais enfin, j'ai quelques craintes. Hein. Vous savez qu'on a, ça fait 2 ans, bientôt 3, qu'on avait 2 équipes. L'élite 2 donc et la fédérale. On se pose pas mal de questions, hein, je dis on au niveau dirigeant, quant à l'élite à l'équipe 2. On souhaite maintenir évidemment l'équipe 1 en élite 2, mais gros point d'interrogation, parce que il n'y a pas seulement les joueurs qui nous posent, qui nous posent pas de problème, mais on ne sait pas trop qui va adhérer. Voilà. Mais au niveau dirigeant, je pense que ce Covid a fait pas mal de dégâts. Oui. Alors, voilà, logiquement, on se pose des questions. Hein. Normalement, ouais, ça reprendrait, voilà.
Pour soyons optimistes.
Soyons optimistes, tout à fait, mais c'est compliqué, je ne sais pas, vous devez vous en apercevoir vous aussi, hein.
Oui.
Tous les clubs, voilà, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Oui, bon, après, il faut espérer que quand, je ne sais pas si on retrouvera la vie d'avant, mais quand ça sera derrière nous, bon, tout le monde aura envie de revenir aussi, de retrouver les gens, de retrouver les terrains, et bon, petit à petit, aussi bien les joueurs, les jeunes que les dirigeants.
Denis, non mais je comprends ce que tu veux dire, oui, mais ceux qui venaient voir les matchs, ils reviendront toujours. Mais ceux qui s'en occupent, qui s'occupent du club, voilà.
Oui, ben oui.
Là aussi, gros point d'interrogation. Je le mets au même niveau que les joueurs, hein. Voilà.
Exactement.
Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de club.
Hein. Ah oui, il n'y a plus de club, bien sûr.
Voilà, soyons confiants.
Voilà, on espère que ça repartira. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on va repartir. Voilà.
D'accord. Voilà. Je crois que c'est. Il n'y a pas que dans le rugby à 13 que la question se pose.
Non, mais c'est évident, c'est du jamais vu. Et voilà. Et puis les gens, vous savez, ils sont détournés, ça va faire pratiquement, ça fait plus d'un an. Et ils ont d'autres occupations. Maintenant, ils sont tournés vers autre chose. Et pour les faire revenir, voilà, je ne le sens pas trop. Mais j'espère me tromper.
Non, mais c'est vrai, c'est tout le sport amateur qui va avoir du mal à s'en relever. Bon.
Tout à fait.
Mais bon.
Voilà. Merci Michel Rouanet.
Bon, merci Michel.
J'ai répondu à vos attentes. En tout cas,
Oui, pas de problème.
Merci de m'avoir invité. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et voilà. Et je voudrais renouveler quand même un petit coucou à mon ami Jean-Paul. Jean-Paul qui est Jean-Paul Marquet.
Et, on l'embrasse.
Oui, et lui. Colette Barthe, voilà.
Oui, et Jean-Paul Marquet, lui, se sacrifie. Il s'est sacrifié son vaccin. Il a foutu un réservoir dans la voiture. Il a pris un de la voiture toute sa vie.
En tout cas, bravo et merci pour ce que vous faites. Bravo.
Merci Michel.
C'est nous qui remercions Michel Rouanet. À très bientôt. D'accord.
À bientôt, merci.
Au revoir. Denis, vite fait, le week-end triste.
Alors, le week-end triste, bien vite fait. Demain après-midi, rendez-vous à 15h pour ce match important du Radio Stade Albert Domecq. Et que vous pourrez suivre en direct sur Radio Marseillette et sur le Facebook de Carcassonne 13, puisque ce sera le match qui va opposer Carcassonne 13 à Villeneuve-sur-Lot. Les Carcassonnais qui ont besoin de poursuivre, parce qu'il leur reste encore 4 rencontres à disputer avant les phases finales, et ils ne peuvent pas quand même se permettre, ils sont toujours, quand même s'ils ont une petite avance, ils sont toujours sous la menace. En particulier les Catalans, il faut qu'ils continuent à gagner des rencontres. Cette équipe de Villeneuve-sur-Lot, c'est un peu l'inconnue. On attendait une équipe en début de saison, elle a beaucoup recruté. Après là, elle est quand même un peu dans la difficulté, elle est sixième, elle vient de perdre Petit Bourne qui vient de partir aux États-Unis pour rejoindre le nouveau championnat professionnel à Brooklyn. Je disais également qu'un des autres, le nom m'échappe, mais enfin, un des autres joueurs de Villeneuve, un des autres étrangers, mais il va à signer à Brooklyn, il va partir, mais il sera là, je pense, demain. Mais il va. Donc voilà, donc cette équipe de Villeneuve, elle se cherche un peu, mais à mon avis, elle est capable de réussir l'exploit. Et de venir gagner à Carcassonne. Les Carcassonnais devront être très vigilants. Voilà, il faut, ils ont soit, c'est pas, il faut pas qu'ils fassent le match de Toulouse, mais il faut qu'ils le match de Lézignan et d'Avignon la semaine dernière. Voilà, je pense qu'avec en jouant comme ça, ça devrait le faire. Ensuite, eh bien, donc ça c'est à 15h, en direct sur Radio Marseillette. Ensuite, à 16h30, bon, sur Radio Marseillette, nous, on n'y sera pas, mais il y aura le match qui aura lieu à Albi, et puis qui opposera Albi à Palo, que vous pourrez suivre également sur YouTube, sur le site d'Albi Rugby League, si vous voulez le voir. Bon, je rappelle que du côté d'Avignon, Avignon-Saint-Gaudens est annulé, reporté pour cause de Covid du côté Saint-Gaudens. À 18h demain soir sur Beansport, Roger va vous donner il y a les Dragons catalans qui reçoivent, qui reviennent à Brutus pour recevoir l'équipe de Talcon. Voilà, alors c'est sur quel BIN, Roger ?
Beansport 3.
Voilà, Beansport 3. Le retour des Dragons à Brutus, les Dragons catalans à Brutus, après pas un an, mais plusieurs mois d'absence. Et puis, ça c'est pour demain. Et dimanche, nous vous donnons rendez-vous à 15h en croisant les doigts pour que les câbles de Limoux fonctionnent, pour qu'on puisse vous faire vivre ce match à l'aiguille entre le 13 Limouxin et Toulouse Olympique. Et puis, en vous rappelant que le match qui devait avoir lieu au Moulin, le grand match qui devait avoir lieu au Moulin entre le Feuseux Lévignan et Saint-Estève Catalan, grand match, mais aussi grand match sportivement, mais aussi pour le classement, hein, qui avait une grosse importance pour le classement, est reporté, puisqu'il y a des cas de Covid du côté des Verts et Blancs. Voilà donc le programme de ce week-end. Donc nous, on se retrouve demain, juste un peu avant 15h, pour ce match entre Carcassonne et Villeneuve-sur-Lot. Voilà, avec Roger et Nicole, tout ça aux manettes, dans les tuyaux. Roger dans les tuyaux.
Et notre ami Victor Jalbaud sera à Limoux. Et il n'a pas pu y aller la semaine dernière, mais là, il sera à Limoux, là. Et poursuivre en courant pour avoir les points et tout, pour qu'ils puissent faire à la fin du match le classement de Nasser Benarok.
Alors, puisque tu en parles, attends, il faut le donner, oui. Ce classement, parce qu'il a fait quand même. Il a bossé quand même, attends.
Bien sûr.
Après les trois matchs, les trois victoires des clubs au doigt, eh bien, Carcassonne est en tête avec 14 matchs joués, 26 points. Lévignan est second, 14 matchs joués, 20 points. Et Limoux est troisième avec 15 matchs joués, 18 points. Donc il reste 4 matchs à jouer à Carcassonne et à Lévignan, 3 à Limoux. Bon, pour Limoux, c'est cuit. Il faudrait, pour que Carcassonne ne remporte pas le Master Bernard Roch, ils ont 6 points d'avance, il leur suffit de gagner 2 matchs sur les 4 et ils sont sûrs d'être qualifiés. De gagner le Master Bernard Roch. Donc, on peut dire aujourd'hui que Carcassonne va gagner ce Master Bernard Roch, à moins d'une catastrophe dans ces dernières rencontres. Voilà.
Voilà. L'émission se termine. Moi, je remercie Nicole, je remercie Denis, je remercie un grand Thierry qui va se faire un plaisir de nous faire un petit compte rendu sur le président Belgique la semaine prochaine. Et puis, je remercie l'auditeur et l'auditrice. À demain, en direct sur Radio Marseillette, pour ce match Carcassonne du Lénage sur l'Ot.
À demain, bisous à toutes. Ciao, ciao et à tous. Ciao, ciao.
Bonne soirée, à demain 15h.
Au revoir.